Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Et donc ce soir, pour ceux qui nous suivent, vous aurez peut-être remarqué que c'est la deuxième apérophonie du jour. Donc journée un petit peu spéciale. Et on est en direct du ciel. Cette apérophonie vous sera présentée par Lila et Alice.
Oui, une soirée musicale au ciel à partir de 20h30 qui va réunir deux artistes, Dina Abdelwahed et Vika Pacheco. Et ce sera en direct juste après cette petite heure ensemble avec nos invités et avec des étudiants qui ont vécu un workshop en lien avec les artistes invités. On en profite pour discuter avec tous les gens qui vont faire cette soirée en direct sur Radio Campus Grenoble.
Donc cette soirée, elle est dans le programme du Festival des gestes de la recherche qui est organisé par l'ESAD, l'École supérieure d'art et de design de Grenoble. Et donc cette soirée est au ciel. Donc on va commencer notre émission en compagnie de Vika Pacheco. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Vika, tu es une artiste plasticienne et une musicienne mexicaine.
Oui.
Mais tu vis en Belgique.
Oui, j'habite à Bruxelles depuis presque 6 ans. Mais j'en ai fait une partie de mes études en art en France. C'est pour ça que je parle...
Que tu parles bien français.
Je parle bien français, bon, bien, je sais pas, mais je le parle,
très bien.
Je les comprends.
Et donc là, tu es venue de Bruxelles exprès pour la soirée ?
En fait, je suis en train de faire une petite tournée. Comme je vous disais, c'est la première fois que je fais une petite tournée. Normalement, c'est pas mon régime de voyage faire des tournées. Mais c'est une salle de concert qui s'appelle les Périscopes à Lyon, qui est pas très loin d'ici, qui a organisé une tournée un peu dans la région. Ça veut dire la Suisse et... Comment on appelle cette partie
Les Alpes.
Ouais, ou... on va dire. Ouais. Donc, ça a commencé à Lausanne, Genève, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble. Et j'ai fini demain avec Marseille.
Voilà. Donc, un gros programme.
Oui. Oui.
Et en fait, toi, tu es plasticienne et ton approche de la musique, c'est que tu crées toi-même tes instruments.
Oui, en fait, j'ai toujours été très proche de la musique, soit par les chants, la guitare, la musique populaire, d'où je viens. C'est quelque chose de très, très ancré dans la culture. Et la céramique aussi. Et après, je fais mes études aux Beaux-Arts. Je commençais au Mexique. Et je faisais déjà aussi de la céramique pour ma pratique plastique, ça me plaisait trop. Et après, c'était en étant à la Villarsan, c'est une école à Nice, dont c'est une école très pluridisciplinaire, on peut dire, où on peut mélanger un peu toutes les techniques possibles pour faire tout ce que tu veux, soi-disant. Et c'est là où j'ai commencé un peu à fabriquer à m'intéresser d'abord aussi à tout ce qui est les instruments précolombiens. Donc, ça veut dire les instruments qui ont été faits avant la conquête au Mexique. Et pas qu'au Mexique, dans toute la Mésoamérique, ça veut dire la Latino-Amérique maintenant. Donc, des instruments en céramique. Et la plupart, c'est des flûtes. Donc, j'ai commencé un peu à être fascinée, parce qu'il y en a une quantité impressionnante d'instruments qui ont été faits. Et voilà, ça m'a beaucoup inspirée pour faire moi-même mes propres... Ma propre recherche autour de différents types d'instruments et à fabuler un peu avec comment je pouvais, d'une certaine façon, réveiller un peu cette fantasme un peu avant la colonie, avant la colonisation de la Mésoamérique. Voilà.
Et est-ce que tu as pu voir d'autres flûtes qui existaient ou d'autres instruments qui existent encore maintenant de cette époque-là? Ou est-ce qu'il y a encore
des restes de ces instruments ?
Oui, oui, carrément. En fait, la plupart de ces objets, c'est des objets archéologiques. Donc, c'est quand même assez difficile d'accès. Mais bon, au Mexique, on a des beaux musées, des très impressionnantes collections, dont notamment le musée d'anthropologie d'histoire à la ville du Mexique. C'est là, tu peux voir des choses impressionnantes, à Oaxaca aussi. Donc, ouais, après, t'as pas vraiment contact. Donc, là, les recherches que je fais, c'est, moi, je l'appelle un peu une sorte d'archéologie pseudo-expérimentale, où je un peu passe par des outils plus contemporains pour faire la recherche de comment un instrument peut fonctionner. Donc, la 3D, l'impression 3D, parler aussi avec des gens qui savent plus que moi, donc notamment des gens qui font des répliques d'instruments. Et après, moi, je crée mes propres formes, on va dire, en gardant, soi-disant, un peu la technologie de base, comme par exemple des flûtes hydrauliques. Ça va devenir des flûtes hydrauliques, mais je ne garde pas l'iconographie des anciens, sinon j'ai recréé un peu mes propres formes.
Et donc, c'est des objets, des instruments qui font environ 20 cm ?
Oui, ça dépend. Là, j'en ai fait des nouveaux, on va dire, récemment dans une résidence aux Pays-Bas. C'est une résidence de céramique que j'aime beaucoup parce qu'ils ont les moyens techniques et aussi l'aide un peu technique qui te permet un peu de faire des choses assez ambitieuses. Et j'en ai fait des nouveaux, c'est des sculptures floutes hydrauliques de 80 pour 80 cm. Donc ouais. Ça, c'est, je l'imagine plus pour la performance. Je commençais un peu à travailler avec des danseuses récemment pour faire des pièces qui mélangent la danse et le son et les sculptures. Donc oui, ça devient un peu... voilà, les formats mutent avec le temps.
Ouais, pas seulement une performance sonore, mais aussi visuelle, en fait.
Oui, 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 c'est ça. J'ai fait aussi des sculptures kinétiques, où je mets en place plusieurs flûtes, par exemple, avec des moteurs et l'Arduino, des nouvelles technologies, pour faire un peu bouger tout ça autonomement.
Comme des automates.
Oui, voilà, comme des automates.
C'est génial.
Oui.
Et donc pour toi, pourquoi c'est important d'avoir une esthétique recherchée dans tes instruments et pas seulement de faire attention aux sons qu'ils peuvent produire.
C'est une bonne question. Bah, en fait, c'est j'ai quand même une pratique, un imaginaire plastique depuis que j'ai commencé un peu à m'intéresser à vouloir être artiste, soi-disant. Donc moi, j'ai un peu quand même mes influences. J'aime beaucoup tout ce qui est la recherche autour de formes de la nature. Donc, tout ce qui est les plantes, comment ça marche mathématiquement, les formes des plantes, les organes, par exemple, ça m'inspire beaucoup. Comment est-ce que c'est fait, en effet.
Les fractales, un peu.
Les fractales, exactement, des choses un peu qui vont...
Les répétitions.
Voilà. Et aussi, bon, la science-fiction, j'ai beaucoup un peu des mondes qui sont un peu plus aliens, on va dire, de nous, quoi, qui rappellent un peu des animaux ou des coquillages ou des plantes ou des choses qui... On ne sait vraiment pas trop ce que c'est, mais ça nous rappelle quelque chose. J'aime beaucoup ça, qu'on ne sait pas trop, mais que les gens, ils viennent, ils me disent « Ah, mais ça me fait penser à ça. »
C'est pas forcément clairement identifié comme quelque chose, mais tout le monde peut le raccrocher dans son imaginaire à...
Oui, oui.
À quelque chose.
Après, il y a chaque flûte a son petit son. C'est ce que j'ai amené aujourd'hui, c'est pour faire les concerts. C'est deux flûtes. Une qui est complètement hydraulique, c'est-à-dire que c'est les mouvements que je veux faire le swinging,
en le balançant,
voilà, que ça crée de la pression, c'est de l'eau qui pousse l'air vers la flûte, quoi, et ça fait sonner, en fait, et c'est comme si l'objet il était un peu animé, donc ça les donne une personnalité à l'objet, donc c'est aussi un peu une relation un peu animiste avec chaque flûte qui a un peu sa forme, sa personnalité. Bon, ça, c'est un peu mon délire. Je ne sais pas si c'est un peu ce que je ressens à chaque fois que je finis un objet.
Et du coup, tes objets, tu les crées, t'en crées beaucoup. Enfin, est-ce que t'as besoin d'être dans un état particulier ou est-ce que tu crées souvent des objets
En fait, c'est assez marrant. Je suis obligée à faire des séries d'objets parce que je sais pas à chaque fois si ça va marcher. C'est un peu comme des Frankenstein, quoi. J'assemble, mais en fait, je passe aussi beaucoup par la 3D. Donc, je modélise tous mes objets en 3D. Je suis un peu une geek de la 3D et j'aime beaucoup travailler à partir de ces outils-là.
Donc, des logiciels de CAO.
Ouais, je travaille avec un logiciel qui s'appelle Fusion. C'est apparemment très utilisé dans les designs industriels pour faire des trucs assez clean. Et donc, je me permets un peu d'imaginer des choses que parfois, je ne les sors pas à l'ordinateur, mais voilà. Donc, je passe par ça et ça crée aussi... Ça me permet un peu d'y aller loin dans des choses un peu impossibles. Parfois, je ne vais pas les sortir de l'ordinateur. Ça reste juste des prototypes.
De laisser ouvert complètement ton imagination.
Oui. Et après, trouver peut-être les moyens. Là, les dernières flûtes, c'est que je parle de 80 par 80. Ça a été quand même techniquement une épreuve.
Une prouesse.
Ouais. C'était genre 3 mois de travail, de technique, d'apprendre vraiment à faire des moules. Un processus très long de comment faire sortir un objet que tu virtuel et après le rendre organique, parce que finalement moi ce que j'aime beaucoup c'est que je peux le dessiner dans l'ordinateur mais ça va être en terre à la fin, c'est très élémentaire la céramique.
Ouais, c'est vrai, ça part de quelque chose de très moderne en fait. Toute la CAO, la construction sur l'ordinateur, et ça revient à quelque chose de très primaire qui existait déjà dans les civilisations précolombiennes.
C'est ça.
Mais tu travailles à la main quand tu fabriques ?
Oui, carrément. En fait, c'est quelle la main ? C'est tout un processus, mais il y a deux différentes façons de faire, soit les couler la terre ou soit presser la terre dans des moules, ouais. Mais tout se passe par les moulages. Quoi. Donc, ça veut dire faire des moules en plâtre, comme on fait depuis il y a très, très longtemps. Sauf que moi, je passe par parfois par des machines comme la CNC. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de la CNC. C'est une fraisseuse. Donc, les fraisseuses, c'est des grandes fraisseuses qui viennent un peu creuser dans des matériaux divers. Et précisément dans cette résidence où j'aime beaucoup retourner, parce que c'est une résidence de production, ils sont une CNC pour creuser directement le plâtre. Donc ça veut dire que j'ai des possibilités d'aller dans des détails assez fous, chose que parfois tu ne peux pas avoir en moulant à la main. Mais finalement, le processus, ça finit tout pour être à la main. Tu coules la terre et je dois assembler des pièces. Comme j'ai dit, le petit Frankenstein, c'est... découper le corps, venir assembler à la main toutes les parties, donc c'est-à-dire coller bien la flûte dans la bonne position, après les émailler, après faire toute la définition de l'objet. Donc oui, c'est très
précis.
C'est très précis, ouais, c'est cool.
Il y a une étape de cuisson ?
Oui, deux cuissons même. Deux cuissons, moi je fais de la... Pour les instruments hydrauliques, il faut absolument que ça soit de la céramique à haute température. Parce que si tu fais des cuissons à haute température, on va dire à de 1200, 1100 jusqu'à 1300 degrés. À parfois, j'ai déjà arrivé, mais il faut que ça soit cuit à très haute température pour que l'eau elle passe pas par la terre. Si je fais des cuissons à 900 degrés, par exemple, la terre, elle reste poreuse et l'eau, elle va sortir de l'objet.
Ah oui, donc pour les instruments hydrauliques, c'est important.
Oui. Et après, il y a là le glace, le glaçage, comme on dit en français, the glazing. C'est les émaux.
Ah oui, les mailles.
Les mailles. Mmh. Et ça, c'est une deuxième cuisson. Donc, il y a quand même toutes des étapes, plein d'étapes.
Donc ça, on parlait des instruments hydrauliques dans lesquels tu ne souffles pas, mais que tu fais juste balancer.
Oui.
Mais tu as aussi des instruments qui sont juste aéroliques, comment on dit ?
Aérophoniques, on va dire. Oui, carrément. Là, j'ai amené une, par exemple, qui a les deux. Donc c'est un objet que je fais récemment, et je le conçois comme un vase à fleurs. Donc j'ai fait une vase à fleurs, mais il y a une flûte. Je ne sais pas si vous voyez un peu les petits sifflets qui ont des formes d'oiseaux, que tu mets un petit peu d'eau. Mm-hmm. C'est exactement ça, le même mécanisme, mais grand. Et avec, moi j'ai envie de mettre des fleurs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la flûte, elle se remplit d'eau quand je bouge avec elle. Et ça fait une différence de pitch. Donc ça veut dire que ça va plus se remplir avec d'eau et donc ça va faire des tones plus aiguës. Et le plus que je commençais à la vider, ça va faire des choses un peu plus graves jusqu'à ça vibre comme les petits sifflets d'oiseaux et ça commence à faire un vibrato qui fait, pour les coups, ça ressemble beaucoup à un oiseau qui chante.
Mmh, très aigu.
Très aigu, oui, vous allez voir. Donc, ouais, et sinon, ouais, j'ai fait des autres objets plus rigolos, plus simples, d'ocarina ou de flûte traversaire qui sont plus, on va dire, basiques. Non, souffler,
ou plus
souffler
classique
dans l'objet.
Mmh.
Ouais, ouais. Mais oui, des flûtes.
Et ce soir, tu as amené combien de flûtes ?
Oh, pas beaucoup. Comme je suis dans la tournée, normalement, je fais un concert où c'est que de l'improvisation avec les objets. Je voyage avec 7 et je crée une espèce d'environnement très jungle, on va dire, un peu jungle. Et là, j'en ai amené 2. 2 plus un plateau que j'utilise comme une espèce, c'est un plateau, on va dire une assiette, quoi, de céramique avec un émail très rugueux. Donc quand je les touche, je l'amplifie avec quelques objets, ça ressemble un peu à... Pour moi, ça me fait penser un peu à être sous la mer et entendre un peu les avec le sable qui...
Le
qui
ressac.
Le ressac.
Il me semble que c'est ce mot-là. On ne l'utilise pas très souvent.
Oui. Voilà, il y a des autres petits trucs, une petite flûte, une petite corne et un objet que j'aime beaucoup, que ce n'est pas moi qui l'a fait, mais que j'ai acheté il y a quelques années à Teotihuacan, que c'est une des centres archéologiques les plus importants au Mexique. Et là, il y a des messieurs qui vendent les fameux sifflets de la mort, on l'appelle, ou résonateurs de bruit, on peut l'appeler aussi. Et en fait, c'est un drôle d'objet qui a la forme d'un jaguar, et c'est en céramique aussi. Et quand tu souffles dedans, ça amplifie juste ton souffle, donc ça fait vraiment un... c'est assez impressionnant, tout simple.
C'est guttural.
Mm-hmm. Oui.
Mm. Qu'est-ce que je voulais demander? Ah oui, en fait, je voulais parler du fait que te demander si c'était toi qui sonorisais, qui décidais de toute ton installation scénique et aussi technique. Est-ce que c'est toi qui décides de où est-ce que tu vas placer des micros, des amplificateurs, ou est-ce que, est-ce que ça a de l'importance pour toi de faire ça toute seule?
Oui, 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 carrément. Bah, j'ai une pratique quand même de son. C'est très important pour moi de mélanger en fait ce qui c'est. L'acoustique dans mon travail, c'est très important que ça sonne bien, on va dire. J'ai passé beaucoup d'années à faire déjà de la musique électronique et électroacoustique, on peut dire, de la composition électroacoustique. Donc c'est très important, oui, de bien choisir comment l'écoute, elle doit se faire. Ça dépend un peu, toujours un peu du contexte où je veux présenter un travail. Mais déjà, j'ai mes micros. Ça, c'est important pour moi, avoir les micros qui permettent un peu à la flûte vraiment d'écouter les côtés les plus sensibles et que ça, qu'on ne perd pas vraiment la qualité sonore de chaque objet et la diffusion. Ouais, bah, normalement, je demande un peu des sonorisations assez immersives.
Mmh. Spatiales.
Oui.
Donc, à plusieurs endroits, du coup, de la salle.
Oui. Le plus simple, c'est une fausse quadriphonie, on va dire. C'est 2 stéréos croisés. Donc, on se sent un peu enrobé par le son.
Mm-hmm.
Et c'est assez joli. Moi, j'aime bien.
Ça fait un mouvement.
Oui, oui. C'est surtout si tu mets du panning ou tu fais des tas d'éléments qui bougent. Moi, j'utilise Ableton pour faire tout depuis beaucoup d'années déjà. Et c'est un logiciel que je pense qui commence à être très connu pour faire de la musique live. Mm-hmm. Et avec ça, on peut vraiment créer en direct des choses assez nice.
Et tu maîtrises, en fait, on se rend compte que tu maîtrises vraiment toute ta musique depuis la création de l'instrument jusqu'à la diffusion. En fait, t'as vraiment je trouve que tu as vraiment une forme d'indépendance sur ta création qui est assez forte.
Ah, merci.
Et ça résonne un peu en cette journée parce qu'on est le 8 mars.
Ouais.
Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être programmée un 8 mars ?
Bah, en fait, ça me touche parce que le 8 mars au Mexique, c'est quelque chose de très, très fort. Très, très fort. Donc, juste là, j'étais en train de penser à toutes mes amies au Mexique qui vont sortir à la rue, défendre un peu nos droits à être libres. Je viens d'un endroit où être femme, c'est quand même, je pense que, véritablement plus compliqué qu'en France déjà, non ? Vous venez de, par exemple, donner les droits à l'avortement, c'est quand même, constitutionnellement, c'est quand même déjà un peu waouh. Et nous, on doit encore un peu faire attention la nuit, quoi. Mmh. Et toute seule, quoi. Et il y a beaucoup de disparitions, beaucoup de féminicides, beaucoup de violences envers la femme, beaucoup de machisme. Donc, ouais, c'est un jour où tu te sens un peu comme mexicaine, et je pense que comme femme aussi, on se sent un peu ensemble et engagé à vouloir changer cette réalité. Donc, oui, c'est quand même. J'étais en train de penser à ça à chaque fois. Au Mexique, c'est quelque chose de très... Toute la Latino-Amérique aussi, hein, mais au Mexique, avec tous les problèmes un peu de féminicide, de violence machiste, ça résonne, ça bouge des choses, quoi, mm-hmm. Je pense. Ça fait quand même un peu vouloir un peu être présente dans plein niveau.
Mm-hmm. C'est puissant comme journée et comme,
oui, oui, oui.
Et comme sens, du coup, que tu donnes...
Oui, carrément. Je me sens honorée. Merci.
Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose dont tu aimerais parler à la radio
Non, c'est beau. Vous avez des super belles montagnes autour de vous. C'est impressionnant. Je ne connaissais pas Grenoble. Je suis arrivée. Je suis là. Waouh, c'est chouette. J'ai eu un peu froid. Je m'attendais.
C'est la contrepartie.
Ouais, mais je pense qu'en descendant vers le sud, il fait plus chaud, mais en fait, j'avais pas réfléchi à qu'en fait, on monte.
Dans la montagne, ouais.
Donc, non, juste, je suis très contente d'être ici.
Eh ben, moi aussi, j'étais très contente de pouvoir discuter un petit peu. On va passer aux interviews suivantes.
Oui, on est donc sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous venez d'écouter Vika Pacheco. Vous l'entendrez en live tout à l'heure en streaming, en direct à la radio. Et je pense que ce que tu nous as partagé permet de visualiser aussi scéniquement ce qui va se passer. Sinon, je vous invite à suivre le compte Instagram de Vika où on voit les très belles œuvres en céramique que tu actionnes et tout pour aussi vivre ça de manière directe. Merci encore Vika.
Merci.
Et nous allons sans doute accueillir Dina Abdelwahed et les étudiants qui ont traversé avec elle un workshop de création, recherche-création en lien avec les ZAD. On les attend. À tout de suite.
Thank you.
On est de retour sur l'apérophonie, donc sur, toujours sur Radio Campus. Et on va maintenant un petit peu plus parler donc, du Festival des gestes de la recherche.
C'est la quatrième édition cette année. Donc c'est organisé par l'École supérieure d'art et de design de Grenoble-Valence, en lien avec le Centre chorégraphique national de Grenoble et le Ciel, où nous sommes ce soir même en direct pour ce plateau et pour la retransmission en direct de la musique et plus avec Affinité que vous allez nous présenter tout à l'heure. Vous avez participé à un workshop, à un atelier artistique en lien avec Dina Abdelwahed, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et on serait très curieux que vous nous parliez de ce workshop. Le thème du festival cette année était celui au sens large de la maison. Alors dites-nous si voilà, il y avait un lien ou pas avec ce que vous avez travaillé. La parole est à vous et on vous laisse vous présenter.
Bonjour, moi c'est Amar. Et ouais, j'ai participé au workshop de Dina Abdelwahed. Le thème du workshop, c'était plus autour des pratiques sonores et de... Enfin, c'était un peu une introduction pour certains élèves des Beaux-Arts pour commencer à travailler le son, j'ai l'impression. Et après, la notion de maison, je suis pas sûr qu'elle était vraiment dans le cadre du workshop, mais Dina nous a aussi poussé à s'inspirer de notre quotidien et essayer de mettre les musiques qu'on écoutait, tout ça, dans ce qu'on a fait comme rendu pour le workshop.
Est-ce que vous aviez une pratique sonore personnelle ou c'était vraiment une découverte? Et par quel chemin vous avez commencé à créer?
Moi, j'avais déjà une pratique sonore avant de participer au workshop. Du coup, j'ai juste un peu travaillé comme je travaille d'habitude. Après, c'était aussi intéressant d'avoir Dina pour m'expliquer des choses. C'est toujours intéressant quand tu fais de la musique de voir comment quelqu'un d'autre fait de la musique. Et c'est plus comme ça que ça m'a apporté des choses. Après, j'ai l'impression qu'il y a des gens que ça les a poussés à plus utiliser le son. Mais je pourrais pas dire.
Il y avait des logiciels, des instruments, des enregistrements field recording un petit peu sauvages. Un peu de tout ça, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez préféré?
Dina, elle travaille sur un logiciel qui s'appelle Ableton Live, et du coup, elle nous a aussi montré comment s'en servir. Et à l'école, il y a le Logic Pro. Et après, chacun a fait... Enfin, c'était plus de la MAO au final, j'ai l'impression, plus que vraiment aller faire du field recording et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de recréer une sorte de paysage sonore avec des instruments virtuels dans le cadre du workshop. Mais il n'y a pas eu tellement de field recording ou de choses comme ça, j'ai l'impression.
Excellent. Tout à l'heure, on va vous écouter sur la scène du ciel. Est-ce que vous auriez envie de nous dire quelque chose sur ce qu'on va entendre ou introduire pour nos auditrices, auditeurs, l'expérience qu'ils vont vivre et qu'elles vont vivre?
Ouais. Alors, ça va commencer par... on va diffuser des chansons, enfin des morceaux que chacun a fait. Il y en a 6, il me semble. Du coup, ça va de chansons de hard techno à des sortes de paysages sonores, à des choses un peu entre les deux. Après, il y aura une performance d'Antoine, qui est à côté de moi, qui va danser. Et après, je vais clôturer, moi, en faisant une performance, mais musicale, à la fin.
Excellent. Antoine, on a entendu dire que peut-être tu pourrais nous offrir un bout de live en avant-première, avant votre passage sur scène.
J'ai oublié l'harmonica en fait. Si vous voulez, je peux chanter. Non, en fait, la flemme.
On t'écoute tout à l'heure
ouais,
alors.
Ouais, voilà, c'est mieux.
Il y aura l'harmonica sur scène aussi.
Non, c'est pas prévu. Mais ouais, oh, peut-être l'imprévu, mais on essaye d'éviter parce que notre prof, il dit qu'il faut pas trop faire d'imprévu. Et en même temps, des fois, si, mais on sait pas trop. Voilà.
Et donc, vous avez participé à l'organisation du festival, vous aussi?
Non, pas moi.
Non, ni l'un ni l'autre. Mais est-ce que vous saurez nous en parler un petit peu qu'est-ce que c'est exactement ce festival, sur combien de temps il se déroule et,
ouais.
Et c'est quoi la problématique du festival?
Du coup, c'est un festival qui s'est déroulé en deux parties. Il y avait une première partie en octobre ou novembre, je ne sais plus trop. Ça s'est déroulé au magasin, au Knack, à Grenoble. Et les deux thèmes du, enfin, le thème du festival, c'est la notion de home ou de maison, de home feeling aussi. Et en fait, ça s'est construit autour de l'artiste Rema Tchatchagé, qui a été invitée en résidence dans le cadre du premier, de la première partie du festival. Et elle développe tout un truc où elle construit des maisons. Elle aussi conçoit le sentiment d'être à la maison, pas comme quelque chose dans un espace précis, mais plus comme un sentiment. Et c'est un peu autour de ça que s'est construit le festival, avec des films, des performances, plein de choses différentes. Ouais.
Et c'était toute cette semaine à Grenoble.
Ça a commencé mercredi. Il y a eu mercredi, jeudi et ce soir.
Donc ce soir, c'est la dernière soirée.
Ouais, c'est ça.
Et l'année dernière, vous aviez fait aussi la même forme, le même format de festival ?
Non, l'année dernière, ça s'était concentré que sur un moment. En fait, ouais, l'année dernière, c'était très condensé. Et il y avait eu aussi des retours de gens qui trouvaient ça trop. Enfin, il y a eu plein de films, plein de choses, des soirées genre de 5 heures, je crois. Et là, les gens voulaient avoir une édition plus light, on va dire. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça s'est déroulé en deux parties comme ça.
Très bien. Et donc toi, Amar, tu es musicien à côté ?
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, je suis même plus étudiant aux Beaux-Arts. J'ai fini l'année dernière, mais on m'a proposé de rejoindre le workshop.
Et donc
parce
après,
que j'avais déjà une pratique sonore, ouais.
Et donc de faire un petit live à la fin.
Ouais, mais ça s'est construit pendant le workshop, le live c'était pas organisé dès le début.
Ah, c'est pas quelque chose que t'avais préparé à l'avance.
Ouais, c'est ça, c'est juste quelque chose que j'ai fait pendant la semaine et c'est ça que je vais faire ce soir.
Et toi Antoine, ta performance chorégraphique, je crois.
Oui.
C'était aussi quelque chose que t'as construit cet après-midi ?
Non, enfin j'ai pris quelques jours pour le construire. Mais c'était dans le cadre du workshop, ouais. Après, moi, j'ai aussi une pratique du son. Enfin, je compose aussi de la musique, etc. Mais je sais pas, j'avais un peu envie de sortir de l'ordinateur. Et du coup, j'ai profité un peu de ce moment-là pour le faire, en fait. Enfin, c'est ça qui est bien aussi à l'école, c'est qu'on peut un peu s'éloigner un peu. Mais en même temps, ça peut créer des liens qu'on n'avait pas forcément imaginé au début, quoi.
S'éloigner dans les disciplines ou dans...
Oui, parce que, enfin, en vrai, c'était pas forcément... On a plus travaillé sur le son, effectivement, sur la composer, ou en tout cas créer quelque chose avec du son. Et là, c'est vrai que je me suis un peu éloigné de ça. Mm-hmm. Mais, je sais pas, c'est ce moment-là qui a permis de le faire, donc il y a forcément un lien, quoi, quelque part.
C'est la question de l'imprévu.
Ouais.
Tu parlais plutôt.
Oui, l'imprévu.
Donc l'imprévu, ça se maîtrise pas, mais il faut quand même un petit peu le maîtriser.
Oui, bah après, c'est quand même un projet, je l'ai pas sorti nulle part, quoi. C'est par rapport à certaines idées déjà que j'avais par rapport à ma pratique, moi, personnelle, pour essayer un peu de justement sortir de créer des objets un peu plus, immatériels. Et du coup, la danse, la chorégraphie, l'expression corporelle, c'est quand même un moyen de s'exprimer, mais sans créer de la matérialité, quoi, sans créer... Parce que, par exemple, on fait de la peinture, bon, on va faire une peinture, mais après, elle va exister, donc il va falloir la ranger, la stocker, je sais pas, donc c'est créer encore de la matière, des objets qui ont pas vraiment d'utilité concrète, en plus, c'est pas des chaises ou des tables.
Mmh.
Enfin, c'est utile que si quelqu'un le regarde, quoi, mais sinon... Ouais, j'en sais rien, enfin, non, je sais pas.
Après, il y a aussi toute la question de la captation qui du coup est aussi production d'une matière, par exemple pour un spectacle de danse.
Bah moi dans l'idée justement c'est que je me dis que c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais qu'il soit capté en vidéo, ça sera juste un moment et au moins après voilà, il y aura un souvenir, peut-être des personnes s'en souviendront, moi peut-être j'aurai un souvenir et voilà, c'est pas mal je trouve, au moins c'est transportable plus facilement.
Voilà. Mmh.
On imagine à peine la frustration de nos auditrices et auditeurs qui ne verront pas, du coup, la performance d'Antoine. Mais il y aura l'ensemble voilà, de ce qui se passera au niveau sonique, sonore, sur scène, qui sera transmis tout à l'heure. Est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose sur la relation de travail avec Dina, ce que ça fait d'être dans le partage de pratiques ou autre chose?
Ouais, pour moi, c'était une bonne expérience et Dina est super sympa, du coup, ouais, c'était bien, quoi.
Ouais, c'était vraiment bien. Et puis, le partage, enfin... Elle nous a partagé plein de choses qu'elle aimait, enfin c'était ça un peu aussi, je trouve que c'est peut-être là où on a retrouvé un peu ce truc de maison entre guillemets, c'est que c'était très convivial en fait, parce que elle nous partageait ce qu'elle aimait, comment elle approchait la musique, etc. C'était pas un truc en mode bon faites ça, si ça, et voilà, on a eu un résultat, parce que quand même si on est enfin on restitue quand même avant elle, on fait un peu sa première partie entre guillemets, et elle aurait pu dire elle aurait pu faire une direction artistique, quoi, dire non, ça serait plutôt dans ce sens-là. Mais elle nous a quand même laissé très libre, quoi. Et
vous a laissé vous exprimer, ouais, personnellement,
ouais,
sur vos intérieurs.
Bon, on l'a construit ensemble, la restitution.
Mm-hmm. Mm. Et ben, en attendant d'avoir Dina à l'antenne, on va faire une petite pause musicale. À tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour la deuxième apérophonie de la soirée et juste avant les concerts de Dina Abdelwahed, des étudiants de l'école d'art et de design de Grenoble et Valence et Vika Pacheco. Dina Abdelwahed, tu es.
Oui, tutoie.
Productrice et DJ tunisienne. Ton dernier album est sorti en septembre 2023. Il s'appelle Djbel Rsas. J'ai des origines algériennes, mais chouïa barkla. On va essayer. Mais...
Djboulette.
Voilà.
Djbel.
Et ce soir, en fait, on voulait te demander le sens que ça avait pour toi d'être programmée dans ce festival avec ces thématiques. Tu as à la fois animé avec des étudiants un workshop et ce soir, donc, tu nous feras un concert. Quel est le lien que tu fais avec ce festival et qu'est-ce que ça raconte de ta musique et de toi ?
Bonsoir. salut Grenoble. Alors, du coup, moi, là, je vais. Je suis là depuis quelques jours et j'ai animé un atelier, du coup, avec les étudiants de deuxième et troisième année, je crois, à l'ESAD. Et c'était un peu axé sur. Pas vraiment sur la technique ou technicité de la musique ou faire du son, c'est vraiment plus sur la place de la musique, la place du son dans chaque personne qui veut faire une œuvre artistique de toute discipline. Donc ça peut être du coup sculpture, vidéo et tout ça. Et moi, en tous les cas, ce qui m'importait ou que ce que j'ai voulu apporter pour ces étudiants-là, c'est qu'il faut toujours être, honnête, faire beaucoup de recherches, ne pas laisser les trucs aléatoires juste parce que c'est hype. Et même si c'est hype ou même si c'est parce que ça marche, ça veut dire quelque chose. Et donc, du coup, toujours chercher... le pourquoi, en fait. Et je trouve que ce processus-là, c'est honnête. Ça libère aussi la personne, c'est-à-dire que la personne, ou l'artiste surtout, là on parle d'artiste, de futur artiste, quand ils commencent justement à faire leur mood board avec des choses qu'ils aiment beaucoup et tout ça, déjà, il faut faire de la philosophie un peu, pourquoi ils aiment ça, et essayer de comprendre, du coup, leur personnalité vis-à-vis leur canvas, ou leur, matériel qui vont justement apporter une modification. Donc, du coup, voilà, c'est pas très technique, c'est plutôt vraiment philosophique que je voulais apporter. J'espère... On a fait quelques exercices, outputs, quelques résultats, en tous les cas, dans le son. Et c'est ça, la restitution va se passer aujourd'hui. Donc, on a de la performance... un live et du coup une sorte de session d'écoute de quatre œuvres du coup d'étudiants et étudiantes qui ont fini. Quoi d'autre? Voilà.
Oui. Ils nous en ont parlé, donc on va écouter ça avec impatience tout à l'heure. Je rebondis du coup sur l'exigence là dont tu parles, artistique, et, connaître ses sources, travailler le son de manière, avec du travail. Oui. Et ton dernier album, si je ne me trompe pas, justement, s'est fondé sur beaucoup de recherches de rythmique arabe, moyen-orientale. Oui. Tu as mené un gros travail pour... te réapproprier, je ne sais pas si c'est ton mot, ces sonorités, plutôt que d'aller chercher des choses toutes faites.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous parler de ça et de la manière dont ça s'inscrit aussi dans cet art un peu diasporique et post-occidental, en fait, qui est recherché dans le cadre de ce festival et...
Oui, alors je pense... Ce qui est intéressant, en fait, c'est que depuis la nuit des temps, les artistes, ils partent ailleurs, justement, pour être plus en face de d'où ils viennent, ou pour être plus personnels dans leur interprétation. Du coup, c'est ce qui s'est passé pour moi, je pense. Pas seulement que moi, hein, il y en a plein. Je peux lister plein de... Pas seulement musiciens, mais même des peintres et des poètes. Et donc, du coup, je crois que ce qui s'est passé, c'est que le fait que les artistes partent de d'où ils viennent, donc ils deviennent diaspora, par contre, ils deviennent, comme on dit en anglais, lone wolf, seuls.
Des loups solitaires.
Des loups solitaires. Et donc, du coup, il n'y a pas d'archivage, il n'y a pas de continuation de ce qu'ils ont fait, de leur travail. C'est toujours un travail individuel, c'est pas un travail de groupe. Dans la musique, par exemple, quand on voit la musique afro-américaine depuis la nuit des temps, elle est génialissime. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une mise à jour d'un genre qui était avant. Donc on a gospel, ensuite l'R&B, ensuite le disco, ensuite le house, et ensuite trap, et ensuite voilà. Enfin, il y a une sorte de... Il y a toujours une sorte de... Comment dire ?
Continuité.
Ouais, continuité. C'est dans leur environnement. Et même s'il y a beaucoup de ségrégation, il y a beaucoup de problèmes sociétaux et culturels et tout ça, mais ça n'a pas empêché au fait que nous, en tous les cas, dans les pays arabes ou bien même tout le monde, même les Européens, en fait, il y a une coupure de génération, une grosse coupure. Le problème, c'est que nous, on a face à un problème de la culture par défaut, qui est la culture occidentale. La musique par défaut, qui est la musique occidentale. Et même pour faire de la programmation de musique électronique, elle est, enfin, ceux qui ont créé ce programme-là, c'est normal, voilà, c'est l'économie qui... C'est le flou, c'est l'argent qui compte, finalement. Les clients sont destinés, enfin, comment dire, la destination est occidentale. Ok, pas de problème. C'est juste que ce que j'essaye de faire, quand je fais ou quand je compose ou quand je veux rechercher, je recherche tout ça aussi. D'accord ? Donc, je cherche pas, je dis pas, ah oui, ok, c'est la génération d'avant qui l'avait faite, donc je dois rendre hommage. C'est pas aussi simple que ça. Donc, du coup, ma motivation n'est pas une motivation nostalgique. Moi, ma motivation, c'est d'aller de l'avant. C'est tout. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à me dire, bon, faut que je comprenne qu'est-ce que c'est la musique contemporaine arabe d'aujourd'hui. La musique contemporaine arabe aujourd'hui, que tout le monde écoute, c'est la musique pop qui fait danser. Tout simple. Celle qui est sur Spotify et tout ça, c'est-à-dire défendue par des labels énormissimes comme Sony, comme Rotana, comme Universal, donc par exemple Wael El Khoury et je sais pas quoi, enfin tous ces pop stars, je les mets de côté, d'accord ? Et ensuite, je me concentre vraiment sur l'aspect de mariage ou l'aspect de populaire, de gens qui font de la musique. De tous les jours, que tout le monde connaît, très standardisé. C'est tout. Et donc, du coup, voilà, c'est mon aspiration. Il y en a tas sur YouTube. Il y a des variations de ces musiques populaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup de variations. Et donc, ce que je fais, c'est que dans le corps, dans la structure, j'essaie de rechercher ça. C'est-à-dire l'analyser sur, du coup, les logiciels, l'imiter avec des trucs synthétiques et l'enlever pour voir. Je calque, en fait. Je fais vraiment une reproduction réelle, comme on dit dans le dessin, voilà, à main levée. Je fais comme ça, hop, tac, 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 pardon, vous ne voyez pas, je suis rendue dans une radio.
Il reste que le négatif, en fait, c'est ça.
C'est ça, la trace, et j'essaye de reproduire ça, mais avec du son synthétique, du son de l'ordinateur, du numérique. Ça paraît aussi simple. C'est, oui, en fait, c'est simple, mais c'est lent. Voilà, c'est ça le truc, c'est lent. Du coup, ça, c'est pour ça que j'ai pris du temps, franchement. C'était super cool de prendre le temps easy comme ça pendant 3-4 ans pour le faire sortir, l'album. Ouais.
Excellent, merci Dina. On va pas te retenir trop longtemps davantage parce que tu vas monter sur scène avec les étudiantes et étudiants pour la restitution, puis pour ton concert un peu plus tard.
Merci.
J'aimerais finir par une petite phrase. Tu me dis si ça résonne. Une phrase d'une une pionnière parmi d'autres, et tu en fais partie de la musique électro, Laurie Spiegel, qui dit « La technologie est prodigieusement libératrice, elle pulvérise les structures du pouvoir. » Voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais en ce 8 mars, un peu, on s'est dit aussi que mêler la musique et les questions féministes et de libération voilà, de toute minorité, c'était chouette aussi de voir que la scène et la composition étaient des espaces de liberté.
C'est vrai qu'on est le 8 mars. Je suis féministe.
Tu as beaucoup bossé sur d'autres choses.
Excuse-moi.
Il n'y a pas que la manif dans la vie, il y a d'autres manières de lutter.
C'est génial. Oh, merci beaucoup. Désolée.
Il n'y a pas de problème. Merci Dina, merci encore pour ta présence ce soir. Et auditrices et auditeurs, restez sur le 90.8 pour entendre toutes ces merveilleuses choses dont on n'a fait que vous parler toute la soirée.
Ou même venez au ciel.
D'ailleurs. Tout à fait, Grenoble, venez.
Et merci François, la technique.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie ! Quoi ? Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 ! Ah, sur Campus Grenoble 90.8 ! Oui !